Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les 1001 expressions préférées des Français de Georges Planel est un ouvrage de référence grand public consacré aux locutions, tournures, imagées et maximes qui irriguent le français courant. Conçu comme un dictionnaire de curiosités linguistiques plutôt que comme un essai suivi, il invite à consulter les expressions selon ses besoins ou à les découvrir au hasard. Pour chacune des 1001 entrées annoncées, l'auteur examine le sens usuel, les pistes relatives à l'origine et, selon la présentation éditoriale, ajoute des remarques humoristiques ainsi que des citations littéraires appropriées. Planel, créateur du site Expressio, aborde ce matériau avec une démarche de recherche documentaire attentive aux usages, à l'histoire et aux incertitudes étymologiques. Le livre répond ainsi à une question simple, mais souvent négligée, pourquoi formulons-nous certaines idées avec des images parfois étranges, héritées d'époques révolues ? Son objectif est moins d'imposer une théorie de la langue que de rendre intelligible et mémorable un vaste patrimoine d'expressions françaises. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, retrouver les racines historiques derrière les images du français courant. La matière centrale du livre est l'enquête sur l'origine des expressions employées quotidiennement sans que leurs locuteurs en perçoivent toujours la logique. Des formules telles que « passer l'arme à gauche », « avaler des couleuvres » ou « se mettre dans de beaux draps » paraissent transparentes dans leur emploi moderne. Mais leurs images peuvent renvoyer à des pratiques anciennes, à des évolutions de mots ou à des usages littéraires. Planel met précisément à profit cet écart entre la familiarité de la formule et l'étrangeté de son histoire. L'intérêt n'est pas seulement anecdotique. Comprendre une origine aide à distinguer le sens exact d'une locution de l'interprétation spontanée que suscite son vocabulaire actuel. Le cas de Maître Le Hola illustre cette méthode. L'expression ne procède pas de la salutation espagnole, mais d'une interjection française ancienne servant à arrêter ou interpeller. L'ouvrage apprend donc à se méfier des rapprochements trop immédiats. Il replace les mots dans leur contexte de formation, tout en reconnaissant que l'étymologie des locutions n'aboutit pas toujours à une certitude unique. Cette prudence est importante dans un domaine où les explications séduisantes, mais insuffisamment étayées, circulent facilement. Deuxièmement, faire de 1000 une entrée un outil de consultation autant qu'une lecture de découverte, elle, ampleur du recueil, détermine son usage. Avec 1001 expressions, le livre ne se lit pas nécessairement de la première à la dernière page comme un ouvrage argumentatif. Son classement alphabétique, relevé par des lecteurs, permet de retrouver une formule entendue dans une conversation, un texte ou un média. Cette fonction pratique en fait un compagnon utile pour vérifier un emploi, préciser un sens ou éclairer une référence. Mais le format favorise aussi le feuilletage, une entrée peut conduire à une autre, et transformer une recherche ponctuelle en exploration du lexique. Ce double mode de lecture convient à la nature même des expressions idiomatiques, qui forment un ensemble discontinu d'images, de survivance et de réemploi. Le lecteur peut ainsi passer de locutions très fréquentes à des tours moins usités, sans perdre le fil d'une thèse générale. La contrainte de concision, appréciée par plusieurs lecteurs, rend cette consultation plus fluide qu'un traité d'étymologies exhaustif. En contrepartie, l'ouvrage ne prétend pas remplacer les grands dictionnaires spécialisés ni résoudre toutes les controverses. Il privilégie une médiation accessible entre la curiosité ordinaire et les ressources savantes mobilisées pour expliquer les usages. Troisièmement, montrer que les expressions françaises sont des archives vivantes de la culture, le livre fait apparaître les expressions comme des traces actives de l'histoire culturelle. Une locution conserve parfois des réalités médiévales, des gestes sociaux, des références professionnelles ou des formes littéraires qui ne sont plus immédiatement visibles pour le locuteur contemporain. Cette persistance explique pourquoi des images paraissent parfois énigmatiques tout en restant parfaitement efficaces dans la conversation. En suivant leur transformation, Planel souligne que le français n'est pas un simple répertoire de définitions fixes, les formules se transmettent, changent de contexte et gardent leur vitalité malgré l'effacement de leur cadre d'origine. Les citations littéraires annoncées dans l'ouvrage jouent un rôle utile à cet égard. Elles situent certaines expressions dans des usages attestés et montrent que la langue écrite a aussi participé à leur diffusion ou à leur stabilisation. Cette perspective évite de réduire les locutions à un folklore décoratif. Elles constituent des raccourcis de sens, souvent chargés de jugement, d'ironie ou d'intensité. Étudier leur histoire permet donc de mieux comprendre la manière dont une communauté linguistique condense ses expériences collectives dans des images verbales. Le livre rappelle aussi que ce phénomène existe dans les autres langues européennes, chacune possédant ses propres héritages et ses parcours sémantiques. Quatrièmement, allier précision documentaire, hypothèse explicitée et ton humoristique, Georges Planel ne se présente pas comme un linguiste universitaire. mais son travail repose sur une collecte prolongée et sur la confrontation d'explications disponibles. Son site Expressio a constitué un prolongement important de cette activité de documentation. Dans le livre, cette posture produit un équilibre entre sérieux de l'enquête et lisibilité. L'auteur cherche les origines, examine les variantes et peut signaler plusieurs hypothèses lorsqu'une filiation reste discutée. Cette façon de procéder est préférable à l'affirmation d'une origine définitive quand les sources ne permettent pas de trancher. Certains lecteurs apprécient justement cette honnêteté, tandis que d'autres regrettent que certaines notices restent ouvertes ou que des expressions attendues soient absentes. Ces limites sont inhérentes à un corpus vaste et à un domaine où les attestations sont inégales. Le ton humoristique et les commentaires personnels constituent l'autre trait distinctif du livre. Ils empêchent la consultation de devenir purement scolaire et rendent les notices plus mémorables. Ils peuvent toutefois ne pas convenir à tous les lecteurs, certains jugeant cette légèreté inégale. L'intérêt analytique de l'ouvrage tient précisément à cette combinaison, il vulgarise un savoir lexical sans masquer complètement les zones d'incertitude qui entourent l'histoire. Des mots. En dernier lieu, améliorer la compréhension et l'emploi des locutions dans la pratique du français, au-delà de la curiosité historique. Le recueil a une portée concrète pour l'usage de la langue. Les expressions figées posent un problème particulier, leur sens global ne se déduit pas toujours des mots qui les composent. Et leur emploi dépend souvent d'un contexte, d'un registre ou d'une nuance implicite. En donnant accès à leur signification et à leur parcours, le livre peut aider les locuteurs à éviter les emplois approximatifs. Il est particulièrement pertinent pour les apprenants avancés de français langue étrangère, qui rencontrent ces formules dans la presse, la littérature, les échanges familiers ou les productions audiovisuelles. Pour eux, connaître la traduction brute ne suffit pas. Il faut comprendre l'image, la valeur pragmatique et parfois le décalage humoristique. Les francophones y trouvent également matière à réviser des expressions devenues si naturelles qu'elles passent inaperçues. L'ouvrage n'est pas une méthode progressive d'apprentissage ni un manuel de grammaire. Son utilité relève plutôt de l'enrichissement lexical et culturel, il développe une attention aux formules toutes faites, à leurs conditions d'emploi et aux malentendus qu'elles peuvent provoquer. Son organisation part entrer en fait un support adaptable à une lecture autonome, à des activités pédagogiques ou à la préparation de jeux et de quiz linguistiques. En conclusion, les 1001 expressions préférées des Français s'adressent d'abord aux lecteurs qui aiment comprendre ce qu'ils disent et d'où viennent les images de la langue courante. Les francophones curieux y disposeront d'un instrument de vérification et de découverte, utile pour éclairer une expression entendue ou retrouver le sens précis d'une formule. Les enseignants et apprenants de français langue étrangère pourront aussi y puiser un complément culturel précieux, à condition de l'utiliser comme un recueil de consultations plutôt que comme une méthode structurée. Son principal bénéfice intellectuel est de rendre visible l'épaisseur historique des locutions derrière des mots apparemment ordinaires, subsistent des usages anciens, des déplacements de sens et des références littéraires. Sur un plan pratique, il aide à employer les expressions avec davantage de justesse et à repérer les fausses évidences étymologiques. Par rapport à un dictionnaire académique ou à un traité spécialisé, l'ouvrage se distingue par l'étendue de son corpus, son format propice au butinage et son ton personnel. Il ne remplace pas les ouvrages de référence plus techniques lorsqu'une étude philologique exhaustive est nécessaire. En revanche, il offre une entrée particulièrement accessible dans ce domaine grâce à des notices concises mêlant explications, contexte et humour. Cette alliance entre ambition documentaire et plaisir de lecture explique sa place durable parmi les recueils consacrés aux locutions françaises. Si vous souhaitez soutenir Georges Planel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.